Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un écrivain méconnu qui a vécu l'essentiel de son existence dans notre région, à Montaut, très exactement, petit village de la Garrigue, et qui s'intéressait beaucoup à l'étang de l'or. Il s'agit de Gaston Bessette. C'est un écrivain médecin, et peut-être que ce qu'il a écrit ne doit à cette qualité qu'il avait de l'observation du médecin. En tout cas, c'est un écrivain qui a véritablement magnifié la région, notamment le littoral, à travers l'étang de l'or et également d'autres livres. Il a eu son heure de gloire puisque la télévision a adapté à deux reprises certains de ses romans, avec notamment Ces grappes de ma vigne et Isabelle de la Garrigue, qui sont deux romans de terroir, pourrait-on dire, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus que ça encore. Il se trouve que L'étang de l'or est un livre emblématique de ce qu'il a pu faire et que, à travers la recherche et la mise en forme du fonds Gaston Bessette à la médiathèque Émile Zola, eh bien, Gilles Gudin de Valerin a trouvé un inédit, un premier texte intitulé L'étang de l'or, alors plus exactement intitulé Lucinde ou L'étang de l'or, et a trouvé cet inédit récemment, et donc à l'occasion de la réédition de la version définitive, en quelque sorte, de l'étang de l'or, eh bien, l'éditeur Domains a réédité aussi la première version de l'étang de l'or, qui n'a rien à voir avec la seconde, d'ailleurs. Ce sont deux histoires distinctes, et donc ça a permis de rééditer un inédit, ce qui est toujours pour un éditeur une belle aventure, et que ce soit celui qui a découvert le manuscrit ou celui qui l'édite, et donc d'avoir les deux versions d'un livre qui a mûri tout au long de la vie de Gaston Bessette, puisque ce premier manuscrit a été son premier écrit de littérature, et que L'étang de l'or fut certainement l'un des derniers avant qu'il ne disparaisse. Nous sommes allés rencontrer Gilles Gudin de Valerin, donc, qui a préfacé ces deux ouvrages, et qui est donc le conservateur en chef et le directeur des médiathèques de Montpellier.
Je viens de préfacer L'étang de l'or, la réédition de L'étang de l'or, ce livre mythique de Gaston Bessette. Et parallèlement, on a édité chez Domains aussi Lucinde ou L'étang de l'or, c'est-à-dire un inédit, c'est-à-dire la première version de L'étang de l'or, mais c'est plus qu'une version, c'est presque un autre livre. Le seul élément qui est commun, mais c'est un élément très important, c'est l'étang. Mais sans ça, les deux histoires sont complètement différentes. Et dans le premier, le Lucinde ou l'étang de l'or, qui a été écrit en 1925, donc il avait 24 ans, il était tout jeune, il avait écrit quelques poèmes pour l'instant, il l'a appelé Lucinde au début, c'est-à-dire que l'histoire d'amour, l'amour est plus important peut-être encore que l'étang à l'époque, alors que le deuxième livre, en 45, quand il part en 45, c'est l'étang de l'or, l'amour le plus important, ce n'est pas Geneviève finalement, même s'il y a une histoire d'amour, c'est l'étang.
C'est l'étang. Alors, bien que né à Albi, Gaston Bessette est vraiment un écrivain qui est bien ancré, bien enraciné dans cette région, et notamment dans la partie intermédiaire entre l'étang et la Garrigue.
Oui, c'est un écrivain qui était né à Albi, qui avait fait ses études à Toulouse, donc il y a même un poète, un de ses amis poètes qu'il avait appelé un poète toulousain au début, quand il était très jeune, mais il était par sa famille lié à Moguiot, lié à Montaut, lié à Montpellier, lié à l'étang, donc il était vraiment de cette région. Et surtout, il était, puisqu'il avait à la fois Moguiot, il avait à la fois Montaut, il disait que vraiment ce qui caractérisait ce pays de Montpellier, il a écrit un livre qui s'appelait Ce pays de Montpellier, qui est un très beau livre, ce qui caractérise cette ville de Montpellier, c'est que même si on ne voit pas la mer, on la sent. Et que finalement, ce pays est caractérisé par l'association à la fois des garrigues et de la mer, des deux, et qu'on ne peut pas en exclure l'un et l'autre, et des étangs, bien sûr, ces trois éléments qui sont extrêmement liés. Et c'est vraiment la spécificité de ce pays. Et je crois qu'il faut toujours revenir, quand on parle d'un pays, il faut toujours revenir à la géographie et à l'histoire. Mmh.
Alors, Gaston Bessette, professionnellement, était médecin, et ça ne compte pas pour rien dans sa carrière, y compris d'écrivain. Une grande admiration pour la Grèce aussi, qu'on retrouve évidemment dans sa littérature. Un personnage quand même sous-estimé encore aujourd'hui.
Alors, c'est un personnage effectivement sous-estimé, mais j'allais dire... ça reste un écrivain très intéressant, et notamment Les Temps de l'or, je pense que ça reste un classique et totalement, totalement intéressant et même lisible, pas simplement à Montpellier ou dans la région. C'est un petit peu comme pour la Bourgogne, Henri Vincenot, ou pour Pierre-Jacques Elias pour la Bretagne. Hein. Donc je pense que ça reste un écrivain de dimension nationale. Après, peut-être pas tous ses livres, mais celui-là, il reste vraiment très, très important. Et vous avez une chose importante aussi, c'est que c'est un médecin écrivain. Et donc ça, c'est vraiment important parce qu'il ne séparait pas l'un et l'autre. Il ne voulait pas sacrifier l'un par rapport à l'autre. Et souvent, les médecins écrivains, on a tendance un peu à les minorer. Hein. On ne considère jamais qu'ils sont de ces bons médecins et on ne considère jamais qu'ils sont assez de bons écrivains. Alors qu'on en a eu, bon, pour en citer plusieurs, on a souvent des médecins et des écrivains qui sont, bon, on passe bien sûr, on peut penser à Max Rouquette qui était aussi, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Hein, dans les années 30, il y en avait beaucoup. Donc ça, c'est aussi, ça explique peut-être qu'on l'a minoré parce que médecin et écrivain, c'est pas forcément bien vu ni de certains médecins ni de certains écrivains. Hein, alors que pour la littérature, lui, il jugeait ça très important parce qu'il disait que finalement, c'était la même chose, écrire et soigner, et que ça partait d'un principe fondamental, il fallait déjà aimer les hommes. Et quand on les aimait, eh ben, on pouvait plus facilement parler d'eux et on pouvait plus facilement les soigner que finalement, et lui, il ne séparait pas l'un et l'autre.
Peut-être dans le sens de l'observation aussi, il y avait du médecin dans cet écrivain.
Oui, il y a le sens de l'observation de la réalité, mais il y a toujours quand même de la poésie et de l'art. Et on sait très bien que la médecine aussi, c'est une science bien sûr, mais ce n'est pas une science exacte. Il faut toujours une part, pas de magique bien sûr, mais il y a quand même une part d'art, donc une part effectivement où là, l'intelligence au-delà même des données est en action. Comme bien sûr, la poésie, ce n'est pas simplement des rimes ou des mots bien agencés et qui sonnent bien. Il faut aussi qu'il y ait quelque chose en plus, une petite musique, quelque chose, une âme, quelque chose de supérieur.
Alors dans votre préface, c'est amusant parce que vous venez d'expliquer qu'il y avait eu deux versions au fond de ce livre, quasiment deux livres différents, oui. Mais vous dites aussi qu'il y en a eu, il y a eu une troisième malheureusement perdue.
Alors en fait, celle qu'on édite avec De Mince, Lucinde ou les Temps de l'or, c'est certainement la première version, écrite au Cavin de Beaucaire en 1925. Ensuite, on suppose, d'après les correspondances, qu'il y a eu une deuxième version. Mais que cette deuxième version a été détruite par un événement, parce que bon, dans les années 30, Gaston Bessette était très lié au milieu surréaliste. Et lors de l'événement dramatique du 6 février 34, où la République a failli tomber face aux Ligues, les ligueurs ont cassé du surréaliste. Et il était dans un café, il était avec son manuscrit, et donc ça, certainement une partie de son manuscrit, sa première femme raconte qu'elle ramassait après les feuilles. Donc peut-être qu'une partie du manuscrit était détruite à ce moment-là. Et puis peut-être qu'il avait encore envie de le laisser maturer, puisqu'il a réécrit une troisième version. On a le tapuscrit, enfin même pas le tapuscrit, c'est un manuscrit. Il l'a écrit en 40-45 d'une façon très très rapide. Donc ça veut dire que pendant une vingtaine d'années, même s'il était à la fois médecin, il écrivait des poèmes, il écrivait des articles de médecine, il avait écrit un livre d'histoire de la médecine, il avait écrit des contes. Il portait ce livre, par exemple en 1935 dans L'Éclair, il a écrit un article sur les cabanes de Mogot où on retrouve des éléments qu'on peut retrouver dans Lucinde ou qu'on retrouve dans Les Temps de l'or. Donc oui, il a porté ce livre très très longtemps parce que c'était vraiment, vraiment le livre de sa vie. Alors, il a écrit d'autres livres languedociens, mais celui-ci est vraiment le livre emblématique qu'il a porté très longtemps et qui d'ailleurs est un livre un petit peu... Bon, il faut le relire absolument, parce que tout le monde ne sait pas qu'on passe sur l'autoroute, sur les voies rapides, et qu'on a aux portes de Montpellier une merveille de naturel, une naturelle dans laquelle on peut se promener, et qui était en danger, mais qui est de nouveau maintenant, je crois. Il y a un syndicat, tout le monde travaille dessus, hein, parce que, pour faire revenir, parce que bon, ce qu'il décrit, ce que décrit Gaston Bessette, ou ce que décrivait Temple aussi dans sa jeunesse, la nature, il n'y a plus beaucoup de roseaux hein, dans ce coin-là. Autrefois, il y avait des roseaux. En revanche, il y a certains oiseaux qui reviennent, il y a des fleurs qui repoussent, parce qu'on est en train de lutter contre le fait que... contre la salinité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement d'eau, etc. Donc, mais c'est un poumon quand même, un poumon vert de Montpellier, et surtout c'est un élément, la ville est dans le prolongement de la Camargue, voilà. Donc c'est aussi une partie de son identité.
Oui, il l'évoque d'ailleurs dans l'épilogue, il dit que va devenir cet étang.
Oui, parce que vous avez raison, il y a une évolution aussi entre le premier livre de 25 et le livre de 45. En 25, il croit que tout est immuable dans la nature. Parce que c'est vrai, quand la nature est très très belle, et quand on compare à la vie humaine, effectivement, elle, parfois, ou du moins autrefois, elle changeait moins rapidement que les hommes. En plus, les hommes vivaient moins longtemps. Là. Souvent, les hommes vivaient 30 ans, 40 ans, 50 ans. Hein, donc, il y a quelques générations. Donc, la nature, on avait l'impression qu'elle était immuable. Elle n'était déjà pas immuable, bien sûr. Hein. Mais là, en 25, il croit encore qu'elle est immuable, alors qu'en 45, il voit bien qu'elle n'est pas immuable et que déjà, il y a des choses qui sont en train de changer. Alors, il ne pouvait pas deviner en 45 ce qui allait se passer, mais il voyait bien qu'il y avait des choses qui pouvaient changer et que cette nature, ben, c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il a écrit des textes dans ce sens-là. Il a écrit des textes pour la défense de la nature. Donc, il n'était pas écologiste au sens qu'on emploie d'aujourd'hui. Mais il était dans ce courant de comme Delta, il était aussi à la fin de sa vie, dans ce courant de défense de la nature, c'est-à-dire ce courant qui disait que l'homme était peut-être intelligent, mais que si on lui laissait trop dominer son intelligence et son cerveau, il allait lui-même à terme se condamner lui-même. Mmh. Et donc là, ils étaient déjà dans ce courant-là, tout en étant, je veux dire, en partant de ce qu'ils voyaient, parce que c'était des gens qui vivaient dans la nature.
Alors d'ailleurs, pour revenir à l'étang de l'or, c'est quand même le paradoxe, c'est que c'est à la fois un livre de jeunesse, on le voit avec la première version, et en même temps le livre de la maturité, puisqu'il l'a habité, au fond, ce livre l'a habité tout au long de sa vie. Et on trouve ce côté peut-être grec dans ce panthéisme, cette espèce d'union avec la nature que vous évoquez à l'instant.
Effectivement, on trouve tout à fait cette religion de la nature, où l'homme est un élément de la nature, où il est intégré dans cet élément, et finalement... Dieu, c'est l'ensemble de cette nature, mais en sachant qu'on est dans l'Antiquité, les dieux peuvent mourir. On a vu des dieux mourir. Donc, il est effectivement dans ce courant-là. Et puis aussi, il est dans ce courant où, finalement, dans cette époque-là, il y avait aussi la sensation qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient encore très, très proches de la Grèce. Et peut-être que dans la nature, là, je compare avec M. Temple, qui l'a écrit aussi dans certains... Ils avaient une maison à la Grande Motte, hein, où il y a maintenant la Grande Motte. Et il raconte aussi, comme lui, on voit bien que finalement, ce qu'il vivait dans les années 30 était très peu différent, finalement, de ce que vivaient les Grecs au temps d'Ulysse. Bon, il y avait déjà des différences, mais pour la nature même, la différence n'était pas si grande que ça, quoi. Donc, d'où l'idée dans 25-30 que tout était un peu immuable, et d'où ce rattachement à la Grèce. Et puis bon... La Grèce, c'est un poète, donc la Grèce, c'est les mythes, donc c'est la réflexion sur le sens de la vie, sur le sens de l'homme. Et puis la Grèce aussi, c'est la médecine. Hein. Donc, il a écrit effectivement aussi sur la médecine et l'histoire grecque, Hippocrate. Donc il y avait tout cet enchaînement et toute cette union. Mais alors il décrit effectivement cette nature, mais c'est des livres, on peut dire, surtout le deuxième, parce que le premier est plus dur au niveau de cette histoire d'amour. Mais le dernier livre, c'est un livre du bonheur. Donc il montre bien que si on est intégré dans cette nature, on peut accéder au bonheur.
Oui. Alors le fait qu'il soit médecin, donc il a écrit ce livre sur Hippocrate, c'est amusant de voir que vous le dites dans votre préface, Paul Valéry le remarque et donc remarque le livre pour son écriture.
Oui, il y a une très belle lettre où Paul Valéry lui envoie une lettre, vraiment d'éloge, en remarquant l'écriture, parce que ce livre, il a réécrit sa thèse, mais il a écrit un livre qui est totalement accessible au grand public. Et ce livre a été remarqué par Paul Valéry et a eu beaucoup de succès. Il a été d'ailleurs traduit en italien, en allemand, et même en allemand, il a même été traduit jusqu'en les années 60. C'est un livre qui faisait une référence. Maintenant, bien sûr, on fait des biographies qui sont un peu moins littéraires, mais peut-être que d'ailleurs on devrait revenir à faire des biographies plus littéraires, écrites comme écrit Gaston Bessette, parce que c'est une langue qui est une très belle langue aussi. Et effectivement, là, il a eu un grand succès, donc reconnu par ses pairs, reconnu par les médecins, ce qui fait qu'ensuite il a écrit dans l'histoire de la médecine de l'Hélène Labatine, une grande histoire de la médecine. Mais il a été aussi reconnu par les éditeurs. Les éditeurs, il avait du succès, ils voulaient lui faire écrire en série, comme on fait maintenant, mais on le faisait déjà à l'époque. À l'époque, celui qui a lancé tout ce phénomène d'écrire en série des livres, c'est Grasset, dont il était d'ailleurs, il l'a publié chez Grasset. Oui. Et donc, il lui demande d'écrire d'autres biographies. Eh bien, on voit que c'était quelqu'un qui avait un certain sens de ce qui convenait de faire ou de ne pas faire. Il a refusé parce qu'il a dit « Moi, je n'ai pas passé mon temps à écrire des biographies comme ça. J'ai envie de continuer à faire de la médecine et parallèlement, j'écrirai peut-être des livres. Je ferai les deux. Mais je ne veux pas écrire en série des livres que je ne porte pas. » Et donc, il n'a pas écrit plusieurs biographies. Il aurait pu écrire Laennec. Il aurait pu en faire 4 ou 5.
Oui, oui, bien sûr.
Il était connu. Et en plus, Grasset était plutôt dans ce nouveau phénomène de publicité. Et d'ailleurs, il a fait... Grasset a fait le succès après de Delteil, qui a fait plusieurs biographies, qui a fait des livres intéressants parce que c'est des livres épiques, mais qui sont quand même aussi dans une veine... il avait un sens très commercial, Grasset, ce qui est bien. Mais c'est bien aussi parfois de refuser, faire des livres qu'on ne sent pas. Voilà.
Alors, c'est un livre lyrique, absolument, on l'a évoqué dans son rapport à la nature. Et au milieu de l'ouvrage, il y a un cahier de photographies qui sont que l'auteur a fait lui-même, qui sont de magnifiques photographies.
Voilà. La première édition de la Guilde, ça a été édité en Suisse, comprenait plusieurs dizaines de photographies réalisées par l'auteur. Ce sont des photographies en noir et blanc, bien sûr, donc d'une très très grande bleuté, avec la luminosité, les différences. Et l'édition qu'on vient de faire chez De Mins, elle a la caractéristique qu'on reproduit l'ensemble de ces photographies, ce qui n'était pas le cas dans les presses du Languedoc, et surtout, on le fait à partir de l'édition originale, et c'est le format du livre original, c'est un peu aussi le papier de l'original. Ça veut dire que même si on a l'édition des presses du Languedoc de l'étang de l'or, on peut le racheter parce qu'on aura déjà un livre beaucoup plus bibliophilique. Et surtout, on aura toutes ces photos intégralement et pas seulement quelques-unes. Et surtout, bien reproduit. Et puis, bien sûr, le deuxième, il faut l'acheter parce qu'il est inédit. Il est dit Denis. Et là, vous découvrirez une autre histoire. Vous découvrirez la genèse d'un livre. Et surtout, vous découvrirez des descriptions de l'étang, parfois certaines communes, mais beaucoup qui sont différentes. Bon, vous retrouverez des choses communes, bien sûr. Il y a le négaphole, le petit bateau. À chaque fois, le héros, c'est pas le même, puisque c'est pas la même histoire. Mais il a du mal au début, évidemment, parce que c'est des bateaux très légers. Au début, on tombe à l'eau. même si on vous initie. Mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et puis, il y a beaucoup de choses sur les oiseaux dans la première édition aussi, parce que... Il y avait évidemment toutes sortes d'oiseaux, donc il est décrit bien dans ce livre.
Alors il y a tout un vocabulaire sur des noms de végétaux, d'animaux, etc., qu'on n'utilise quasiment plus aujourd'hui. Il y a un côté un peu exotique de ce point de vue.
C'est très juste parce que, en plus, pour préparer ce livre, il a fait des recherches de vocabulaire. On a dans ce fonds Gaston Bessette des notes, notamment un document dans lequel il a toutes les définitions où il a mis les mots techniques, que ce soit pour les oiseaux, que ce soit pour l'étang, enfin les différentes parties de l'étang, quoi. Et il y a toute une liste assez importante de mots pour Bicourt qui emploie les bons mots et les mots que les gens, voilà, s'ils étaient cabaniers, ils employaient ces mots, ils savaient ces mots, il les a employés. Il y a toute une recherche sur le vocabulaire. Il les connaissait parce que lui-même était cabanier, il avait sa cabane, il allait sur l'étang. Mais il a voulu ne pas... Il a approfondi une connaissance qu'il devait déjà avoir. Hein. Il n'a pas appris simplement en faisant ses listes, mais il l'a même approfondi en faisant quand même des listes de mots avec des définitions, etc. Et on a ce document qui est assez touchant dans la préparation de ce livre, parce qu'on se dit que lui-même en connaissait déjà beaucoup. Il aurait pu écrire aussi sans cette liste, hein, quand même. Mais il a fait encore l'effort parce qu'il voulait que ce soit plus pertinent. Et je crois que dans ces deux livres, il y a aussi la volonté d'être fidèle à la nature et fidèle à ses cabaniers. Donc il y a vraiment, c'est un des leurs, quoi. Il est de cette nature, il est de ces étangs, de cet étang.
Alors vous évoquez le fond Bessette, donc il faut peut-être en dire un petit mot, puisque vous avez fait l'année dernière, il y a pratiquement un an, mois pour mois, une grande exposition sur Gaston Bessette à partir du fond donc qui existe ici.
Et voilà. Alors, ce fonds Gaston Bessette avait été donné par Gaston Bessette et sa femme en avait la jouissance jusqu'à son décès. Donc, quand Madame Gaston Bessette est décédée, ce fonds est donc revenu à la bibliothèque. Et donc, il est très intéressant parce que justement, il contient ce que j'ai décrit, des documents. Il contient des notes préparatoires, il peut comprendre des correspondances, il comprend bien sûr des livres. Et surtout dans ce fonds, quand on l'a commencé à le traiter, quand moi, je l'ai regardé, j'ai regardé un petit peu tous les traités avant. Bien sûr, je ne suis pas le seul à le traiter. Moi, je regarde en gros, mais j'ai parcouru tout ce fonds et tout d'un coup, j'ai découvert l'émotion quand j'ai vu qu'il y avait cet original, qu'il y avait un texte inédit vraiment. Et tout de suite, je me suis mis à le lire. Enfin, il manquait quelques pages, mais il y avait plusieurs versions, donc on pouvait reconstituer le livre. Il y a 2-3 pages qui manquaient dans une version et dans l'autre, mais enfin, en gros, on l'a complet. Hein. Donc là, c'était vraiment une découverte. Et donc là, vous avez raison de dire que ces fonds littéraires qui sont déposés, c'est vraiment très, très important. Et si on caractérise un peu les dernières années des acquisitions de la médiathèque de Montpellier, au niveau des donations, du moins, on a eu beaucoup de donations. On a eu plusieurs donations littéraires d'extrême importance. Donc celle-ci qui bien sûr que vous avez citée. On a eu Léo Mallet, on a eu Max Rouquette. Alors Joseph Deltec, c'est plutôt des acquisitions, c'est pas des donations. On a fait un fonds aussi extrêmement important. Donc on a aussi le fonds Richam, qui est peintre, mais on a la partie, j'allais dire, littéraire, parce qu'elle est aussi poète. On a ses carnets, etc., qui sont en train de se déposer. Et puis on a eu récemment le fonds de l'auteur du jardin d'acclimatation du prix Concours en 1980,
Yves Navarre.
Donc aussi alors là c'est lié plutôt parce qu'on a un fonds littéraire, parce que qu'il est édité par un éditeur en région et qu'on avait fait un colloque. Là c'est pas lié, alors que les autres c'est plutôt lié parce qu'ils étaient nés ou ils avaient vécu à Montpellier. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui le patrimoine littéraire est important, et je crois que c'est bien qu'une grande bibliothèque est un fonds littéraire important. Il y en a d'autres, bien sûr. La Bibliothèque nationale a des fonds extraordinaires. L'IMEC aussi a des fonds extraordinaires. Mais c'est bien que ces fonds existent, ces deux-là, qui sont les majeurs. Et c'est bien que tout ne soit pas à Paris. Donc c'est bien aussi qu'il y ait des fonds à Montpellier et dans d'autres grandes villes, ou même dans des plus petites villes. Parce que ça veut dire qu'on les fait vivre aussi. Et puis parce que je crois que le patrimoine ne s'arrête pas... Il ne s'arrête pas à 1789, il ne s'arrête pas à 1914, il est en mouvement, et donc ça fait partie du mouvement. Après, on continue bien sûr à enrichir le patrimoine ancien. Hein. Bon, voilà, on va acheter cette année une très belle reliure de l'archichancelier Cambacérès, de sa bibliothèque, voilà, cette année. C'est pratiquement fait. Hein. Voilà. Mais vous voyez, donc on continue la partie ancienne aussi, où on a pu acheter aussi d'autres choses plus anciennes. Mais on est aussi beaucoup centré, toutes ces dernières années, sur la partie littéraire, sur la partie du XXe siècle. Et ce qui est très intéressant dans tous les auteurs que je cite, surtout peut-être moins Yves Navarre, parce que là, il est plus récent, mais ce qui est bien aussi, qu'on ne soit pas que seulement... j'allais dire, dans le XXe siècle, qu'on soit aussi plus avancé dans le XXe siècle. Mais quand on prend Rouquette, quand on prend Delteille, quand on prend Léo Mallet, quand on prend même Gaston Bessette, eh bien, ils ne se connaissaient pas tous forcément, mais ils se connaissaient souvent. Mais souvent, il y a des recoupements dans les documents. Mmh. Temple, bien sûr, j'ai oublié de citer le Fontan, mais j'avais cité avant, avec Temple aussi, qui lui, il a déjà par son écriture, il a déjà beaucoup de choses. Et puis en plus, il a connu beaucoup de ses écrivains. Ben, tous ces fonds-là, avec le Fontemple aussi, tous ces fonds-là se parlent entre eux, parce qu'on on retrouve des documents qui sont intéressants pour l'un, pour l'autre. Donc cet ensemble-là est encore plus important que l'addition de chacun, si vous voulez. Et donc ça, c'est, ce qui est important, c'est d'avoir pu aussi avoir plusieurs fonds, c'est-à-dire pratiquement presque une demi-douzaine de fonds littéraires importants. Mmh. Et voilà.
On peut penser d'ailleurs que, je suppose que ces fonds sont ouverts à des chercheurs, à penser que ça va faire émerger des travaux.
Bien sûr, ça fait émerger des travaux. Hein, et bien sûr, ces fonds sont ouverts aux chercheurs. Hein, on les fait pas seulement pour les conserver, on les fait aussi pour mettre en valeur. Et surtout, ils permettront de faire des articles, etc. Bon, d'ailleurs, cette année, on participera, enfin, je participerai, il y aura un numéro de la Revue Europe consacré à Delteille, je vais y participer. Il y aura un colloque en octobre sur Delteille, j'y participerai. Il y aura d'ailleurs beaucoup d'autres articles et certains documents de la bibliothèque seront utilisés. Pas que pour les deux communications, articles que je vais faire moi. C'est important.
Alors pour revenir...
C'est très important parce que je crois vraiment qu'il faut... parce que l'édition, de plus en plus, la durée de vie des livres est de plus en plus courte.
Malheureusement.
Donc la nécessité de rééditer les livres est de plus en plus indispensable. Mmh. Et je crois que dans ce domaine-là, une bibliothèque doit jouer un rôle.
En plus, là, ce n'est pas une réédition, c'est une édition.
Et on a les deux.
On édite un inédit.
Voilà, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, ce que je veux dire, c'est que, bon, il faut aussi, il faut aussi éviter de dire il y a des écrivains majeurs, des écrivains mineurs, parce que, bon, un écrivain qui est majeur aujourd'hui sera mineur demain, et celui qui est mineur aujourd'hui pourra redevenir majeur. Je crois que la littérature apprend à être beaucoup plus modeste, voilà, et puis peut-être c'est aussi arrêter de penser qu'un écrivain majeur est seulement celui qui passe à la télévision française. D'abord, les morts, ils ont du mal à repasser à la télévision, c'est par définition, et puis même les vivants, donc je crois qu'il faut être... Et puis, même dans des écrivains qu'on peut, évidemment, il y a des écrivains qui peuvent être universels, évidemment, si on pense à Le Clésio qui est vivant, là, tout le monde sait que c'est un écrivain qui va rester, mais il y en a combien, comme ça, qu'on peut dire, qui font... Et puis même les écrivains qu'on peut juger, qu'on jugera majeurs ou mineurs, je crois que la littérature, c'est un ensemble. Ils se parlent entre eux. Tous ces écrivains sont nécessaires au plus grand. Et surtout quand ils ont la sincérité, qu'ils disent quelque chose, qu'ils écrivent bien. Voilà. Après, je ne parle pas des non-livres, des gens qui écrivent, ce qui est normal. C'est normal qu'on ait envie aussi de gagner de l'argent, qu'on ait envie de faire des livres, etc. Mais c'est autre chose. C'est pas être écrivain, c'est être homme de lettres, voilà, c'est pas de la littérature, mais c'est normal aussi. Il faut bien que la machine économique, l'édition, elle a besoin aussi de ces titres-là pour publier les autres titres.
Merci Gilles Gudin de Valerin pour toutes ces explications concernant donc Gaston Bessette, concernant aussi la difficulté qu'il y a d'éditer une certaine littérature aujourd'hui. Et je rappelle donc les deux livres dont on a parlé, Lucinde ou l'étang de l'or de Gaston Bessette chez Domains, et puis l'original, la version définitive, l'étang de l'or. Donc Gaston Bessette, avec toujours une préface de Gilles Gudin de Valerin et surtout un cahier de photographie de l'auteur dans ce deuxième étang de l'or. Ainsi s'achève ce numéro de Gulliver et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. à la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.